Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé, un coup de cœur plateforme consacré à Max qui dégaine sa première production française. Une amie dévouée depuis vendredi en ligne. Nous allons accueillir Alexandre Kaufmann, auteur du livre La mythomane du Bataclan, et le réalisateur Juste Philippot également qui va venir nous rejoindre. Nous allons avoir le plaisir de discuter avec Nicolas Brossette. Il est directeur de collection sur Demain nous appartient. Il va tout nous dire évidemment. Enfin presque, et surtout nous expliquer quel est son rôle en tant que directeur de collection sur la série. Elle sera à l'affiche du Fantôme des Saintes samedi sur France 3. Un petit retour ponctuel à la maison pour Anne Dessy que vous retrouverez. On va parler évidemment aussi de Luna dans Plus belle la vie, bien évidemment avec Anne. Et puis vous le retrouvez dans Un si grand soleil tous les soirs sur France 3 dorénavant à 20h40. Moïse Santamaria alias Manu Léonie elle viendra nous voir. On va parler également de Un soupçon, mini-série événement sur France 2 qui démarre mercredi soir avec Odile Wilmain et Joyce Bibring qui sera également avec nous. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on commence tout de suite avec notre spécial Une amie dévouée.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, coup de cœur plateforme cette semaine consacrée à une amie dévouée, mini-série Max événement. C'est la première aussi, donc c'est toujours un événement. Et c'est une adaptation d'un livre, Une amie dévouée, de Alexandre Kaufmann, qui est justement notre invité et qui va être rejoint dans un instant par Juste Philippot, le réalisateur. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un livre que vous avez écrit sur celle qu'on appelle communément la mythomane du Bataclan.
Oui, c'est le parcours donc d'une fausse victime des attentats du 13 novembre, qui naît une fausse victime parmi 30 autres en ce qui concerne le 13 novembre, et donc un parcours assez surprenant au départ d'une personne qui s'est fait passer à la fois pour une fausse victime du Bataclan, prétendant être dans le Bataclan, et aussi avoir un ami qui était au Bataclan. C'était un mensonge assez protéiforme.
Et alors, ce qui était surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'elle ment pour aider les autres, qu'il y a quelque chose aussi de bienveillant quelque part dans ces mensonges dans lesquels elle est en train de s'empêtrer complètement. Quand vous avez écrit le livre, vous avez pu recueillir son témoignage, discuter justement avec cette personne?
Alors, j'ai échangé avec elle à l'écrit, à la fin de mon enquête. Moi, mon but, évidemment, au début, c'était pas de la juger, c'était évidemment de la comprendre. Et c'est vrai qu'au départ, aux abords de mon enquête, je pensais avoir à faire à une personne maléfique que je noircissais, évidemment. Et en avançant dans la compréhension du personnage, j'ai à peu près cerné, identifié ce qui avait pu l'amener à mentir et à se faire passer pour une victime, en découvrant sa biographie, en découvrant qu'elle avait été victime elle-même d'autres choses. Donc en fait, je lui trouvais non pas des excuses, mais des raisons de son mensonge, même si j'en ai pas percé le mystère ultime. J'ai pu quand même mettre en place quand même des éléments qui me permettaient de comprendre ce qui l'avait conduit à mentir.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de vouloir écrire sur elle, justement, qui vous a donné envie, en tout cas, de raconter cette histoire? Qu'est-ce qui vous a donné cette impulsion?
Alors moi, ça part d'une histoire personnelle et familiale, parce que ma propre famille a été victime d'actes de terrorisme quand j'avais 10 ans. Donc en 1985, mon père a été enlevé au Liban pendant 3 ans. Donc j'ai moi-même été indemnisé par le fonds de garantie qui indemnise les victimes du 13 novembre. Et donc j'étais en contact avec Françoise Rudetsky, qui a mis en place, elle-même victime d'un attentat dans les années 80, qui a mis en place tout le système d'aide aux victimes d'attentats. Et donc c'est par elle au départ que j'ai vraiment abordé le sujet, c'est elle qui, avec elle, j'ai échangé dessus. Et donc c'est tout de suite entré en résonance, moi, avec mon histoire personnelle. Tout en sachant que moi, pendant que mon père était au Liban, ma mère se battait pour qu'il soit libéré, et on était, ma famille a été approchée par des imposteurs aussi. Donc tout ça, ça est entré en résonance avec mon histoire personnelle.
Et du coup, effectivement, vous vous êtes dit, cette personne-là, elle profite du système, que vous vous êtes dit dans un premier temps, sans la juger forcément, mais parce que vous dites qu'avant de la rencontrer, vous la pensiez même limite maléfique.
Maléfique, mais en tout cas, c'est vrai qu'au début, je pensais qu'elle était animée que par des motifs pécuniers. Au final, je pense que sa principale motivation, c'était la solitude. Elle était seule et elle n'était pas utile. Et ce qu'elle a voulu, c'est s'acheter un entourage, une amitié, et s'acheter une utilité. Et dans un second temps, parce qu'elle a profité aussi de manière financière de son mensonge, la vraie mythomane du Bataclan, elle en a profité. Mais je pense que c'est venu, bon, ça c'est mon avis personnel, c'est venu dans un second temps. Justement parce qu'il y avait un système d'aide en France très performant et qui est le meilleur au monde. L'idée lui est venue, je pense, dans un second temps, puisqu'on évidemment reste à l'état d'hypothèse, puisque le fonctionnement psychologique de ces fausses victimes est quand même assez énigmatique.
Alexandre, est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez écrit, vous avez dit « tiens, ça ferait une bonne série, tiens, ça ferait peut-être un bon film ».
Curieusement, le réel donnait vraiment des éléments tellement romanesques au début qu'il y a même certains éléments qu'on n'a pas utilisés. Je pense par exemple au fait que un élément qu'on a utilisé qui était très romanesque dès le départ et très propice à la fiction, c'est que, étant elle-même une fausse victime dans l'association, c'est elle qui a débusqué en premier la première fausse victime qui a été débusquée dans l'association. C'est elle qui la trouve et qui la dénonce. Donc c'est quand même hallucinant, mais finalement quand on y réfléchit, c'est plus ou moins logique aussi. Et un autre détail qui était très romanesque et propice à la fiction, mais qu'on n'a pas utilisé, c'est que quand elle est arrivée dans cette association pour aider les autres, en prétendant avoir un ami victime du Bataclan, elle portait à sa cheville un bracelet électronique. Parce qu'elle avait été condamnée pour des infractions, des arnaques qu'elle avait fait précédemment. Et pendant qu'elle aidait l'association, elle a enlevé ce bracelet, elle s'est fait enlever, elle a fini sa peine de bracelet électronique, et elle s'est mise à porter des jupes. Et les autres vraies victimes disaient « ah bah vous allez mieux maintenant, vous allez mieux, vous arrivez à porter des jupes, ça va mieux, vous acceptez mieux le statut de victime ». Et en fait voilà, ça c'était le genre d'élément pas du tout utilisé, c'est-à-dire que le matériau romanesque au départ était... Il y avait des choses tellement invraisemblables que si on les transposait dans l'univers de la fiction telle quelle, c'était pas vraisemblable, ce qui est quand même assez hallucinant.
Et la voir prendre vie comme ça, sous les traits de l'or.
Là, c'est vraiment un passage. Pour moi, c'était très délicat. Je me demandais vraiment ce que ça allait donner. J'étais complètement bluffé par la prestation de Laure Calamy, qui est dès qu'on la voit apparaître, on sait tout de suite que, justement, dans ce registre, qui n'est pas un registre où on va la juger, un registre où on va essayer de la comprendre. Tout de suite, on se dit ah, on va la détester, on va un peu l'aimer, on va essayer de la comprendre. Et vraiment, ça a arrivé à déployer une palette de nuances qui est vraiment. J'ai été totalement sidéré par cette prestation et j'ai retrouvé totalement un écho et une justesse de l'écho fictionnel de la vraie personne est vraiment totalement juste.
C'est ça qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment va évoluer ce personnage auquel, c'est ça le pire, je dirais presque, on finit par s'attacher.
Pour comprendre cette personne, il faut y avoir de l'empathie, mais il faut aussi toujours se rappeler quand même ce qu'elle a fait, et elle a commis d'immenses... Elle a commis d'immenses dégâts, et pour ce qui est de la personne réelle, de la vraie mythomane, il y a une victime du 13 novembre qui m'a dit que cette mythomane lui avait fait plus de mal que les attentats eux-mêmes. Donc voilà, faut quand même aussi garder ça à l'esprit, et justement, je pense que dans le personnage qui est incarné là par Laure Calamy, on réussit à... Je trouve qu'elle rassemble toutes ces... Elle en oublie aucun, à chaque moment, on n'oublie aucun...
Parce qu'on aurait... Des paramètres.
Ouais, on n'oublie aucun des paramètres. Et le danger, ça aurait été de justement trop l'aimer. Mais non, parce qu'il y a toujours une petite note un peu maléfique, justement, qui reste. Donc c'est justement, ça aborde très bien la palette et tous les paramètres, là.
Ouais, parce qu'on sait pas trop quel sentiment, en fait, éprouver envers cet ami dévoué, hein, comme on dirait. On va continuer à en parler avec Jess Philippot, justement, aussi. Une amie dévouée, ça débarque sur Max, la nouvelle plateforme HBO à découvrir avec 4 épisodes. Et vous allez pouvoir découvrir, en tout cas, cette première mini-série, première production française pour ce mois d'octobre, et ça c'est une bonne nouvelle, voilà. Merci beaucoup Alexandre.
Merci beaucoup.
Et on va écouter tout de suite la bande-annonce, tiens.
Madame Blandin. Donc vous étiez près du bar.
Oui.
En fait, j'ai voulu contourner le bar. Je me rappelle que je suis tombée. J'entendais les tirs. Il y a un vigile qui
a ouvert les portes de secours sur le passage.
Quand je me suis retournée...
Je suis retournée une dernière fois vers le passage Amelot. Et lui ?
Lui,
je l'ai vu repartir vers l'intérieur de la salle.
Je l'ai vu à nouveau entrer dans la salle. Et maintenant, je sais ce que c'est que le courage.
Voilà pour la bande-annonce. Une amie dévouée, ça sort sur Max. Juste Philippot nous a rejoint. Juste Philippot, c'est un réalisateur qui a réalisé La Nuée, qui a fait un succès critique totalement hallucinant. Et on est très fiers, en tout cas, de t'avoir avec nous, mon cher Juste. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu as été donc, on peut dire, le premier réalisateur à réaliser une série pour la plateforme Max. Ça fait quoi déjà ?
Personnellement, enfin, c'est très gratifiant. Après, ça fait quoi ? C'est surtout les rencontres que j'ai faites qui font que vous avez l'impression d'être avec les meilleurs des meilleurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une exigence permanente et il y a des rencontres qui sont hyper stimulantes. Donc, ça fait quoi travailler avec des gens brillants ? Ça vous donne la sensation que vous en avez encore envie.
C'est une belle marque de confiance.
C'est une belle marque de confiance. Ouais, c'est une belle marque de confiance, mais elle est justifiée aussi sur cette exigence qui vous est demandée très rapidement, parce que finalement, c'est pas simplement qu'un travail, c'est aussi une collaboration, c'est aussi une adhésion à une façon de faire. Enfin, c'est plein de choses. Et effectivement, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait pour moi et pour ce retour dans un cinéma ou dans un plaisir du personnage qui était au centre de mes premiers films, enfin avant mes premiers longs métrages, et qui sont là pour moi le moyen de revenir, je dirais presque, à l'essentiel de l'émotion.
Juste, on en parlait avec Alexandre, belle transition justement sur la collaboration, puisque Alexandre a écrit ce livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas à toi, d'aller à la réalisation de cette histoire, et comment vous avez collaboré tous les deux, notamment pour l'écriture du scénario et de l'adaptation ?
Alors, il faut parler de Jean-Baptiste Delafont aussi, il faut parler de Samuel Doux et de Fanny Burlino qui sont les premiers auteurs. Enfin, en fait, tout ça est très collectif. Il faut parler avec de Vera, de mes producteurs et productrices, qui ont cherché avec nous le meilleur angle, enfin le meilleur récit. C'est plein de choses qui sont complètement parfois déconnectées et en même temps très très complémentaires, et qui m'ont permis, moi, d'apprécier le souhait aussi d'HBO de vouloir jouer avec le spectateur, parce que c'était le souhait. Enfin, c'est un thriller psychologique, mais en même temps de me laisser la place de raconter encore quelque chose de plus fort qu'un thriller psychologique. Et souvent je leur disais, on va jouer avec le spectateur, mais on va aussi lui faire vivre quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Et moi, c'est très lié à mon histoire personnelle, c'est très lié à l'amour que j'ai eu chez moi, notamment pour mon frère et son handicap. Donc là, j'avais l'impression d'aller vers quelqu'un qui avait besoin d'une caméra pour expliquer qui elle pouvait être et comment on pouvait l'aimer aussi.
Au fur et à mesure, tu découvres le scénario, tu découvres l'histoire de cette mythomane du Bataclan. Qu'est-ce qu'on éprouve envers cette femme ? De la pitié, de la douleur, on se dit c'était une femme seule qui avait envie tout simplement peut-être de se faire aimer à travers essayer d'aider, parce que ce qui est extraordinaire dans la mise en scène que tu fais et puis dans l'interprétation aussi de Lorca Lamy, c'est que à des moments on éprouve un sentiment presque d'attachement, s'y attache, et puis à d'autres moments on se dit non mais c'est pas possible qu'elle ait fait ça, qu'elle ait menti à ce point-là.
Alors moi j'adore le malaise d'une façon ou d'une autre. Alors je l'adore pas au quotidien, mais en tout cas au cinéma, dans le spectacle vivant, enfin, j'aime être dérangé par ce que je vois, parce que tout d'un coup, en fait, je discute avec l'œuvre et je me dis, mais attends, comment je dois la regarder, comment je dois la ressentir, comment je dois la juger, est-ce que je dois la juger, enfin, toutes ces questions-là, pour moi, elles sont primordiales. Et là, elles étaient effectivement au cœur d'une relation, d'un personnage un peu triangulaire, et c'est comme ça que j'ai défini très vite mon personnage, en me disant, c'est à la fois une victime du 21e siècle, c'est une super-héroïne du 21e siècle, et puis c'est un monstre du 21e siècle. Et ce que Vera tout à l'heure a dit de façon très précise, la solitude est une bombe à retardement. Et là, on avait la possibilité de comprendre ce que ça voulait dire et comprendre comment ce personnage, finalement, il est très contemporain et à quel point il nous ressemble dans ses défauts, dans ses exubérances et dans son besoin de mentir pour exister et trouver une place qu'on ne lui donne pas.
Alors, on bascule très vite dans l'horreur de cette nuit-là où, effectivement, il y a eu les attentats du Bataclan. Et on va y retrouver un peu cette femme un peu perdue dans un premier temps, qui va y faire des rencontres au gré de cette nuit d'horreur sur Paris, et qui va se créer même un ami imaginaire victime qu'elle va aller visiter à l'hôpital. Et on va découvrir au fur et à mesure qu'elle s'empêtre dans ses mensonges. Et on va découvrir comment, tout doucement, tout ça va se dévoiler finalement au grand jour. C'est ça, l'enjeu de la série.
Exactement. Ouais, tu as très très bien résumé l'ensemble. Moi je me souviens, hier ça m'a marqué là en le revoyant, dans le métro, le moment où justement, enfin tu parlais des attentats du 13 où où là on est directement connecté puisqu'on est au moment où elle découvre. Ce qui est très fort dans ce passage, c'est la mémoire de qui on a été, des téléphones qu'on a décrochés, du besoin d'appeler celles et ceux qu'on aimait pour savoir où ils étaient, des messages, et tout d'un coup on a ce personnage qui n'envoie aucun message, qui n'appelle personne, enfin qui est finalement totalement isolée dans ce qu'elle voit. C'est comme si elle ne vivait pas ce que les autres vivaient, enfin c'est comme si elle était mise au banc d'une société et que malheureusement enfin elle pouvait pas le vivre aussi, enfin elle le vit vraiment comme une injustice. Elle se dit j'aurais dû en être, enfin j'aurais dû le vivre pour être comme les autres. Et c'est ce besoin d'être comme les autres qui tout d'un coup la pousse à appeler cet ami, enfin et à commencer à créer un processus d'identification. Mais
même sa mère laisse tomber, la met dehors même violemment, hein.
Ouais, parce que sa mère, elle la connaît et elle sait qu'il y a des épisodes de crise comme ça qui sont le moment où elle voit sa fille perdre le contrôle. Et elle le voit, elle le sent, elle connaît sa fille mieux que personne. Elle sait quand une crise est en train d'arriver, sauf qu'elle a plus la force. Enfin, on parle d'une femme qui a maintenant 70 ans et qui élève une enfant adulte qui pose des problèmes, enfin une enfant malade. Donc c'est aussi toute la question du comment on arrive avec le handicap ou la maladie. Et elle n'a plus les moyens et elle la fout dehors parce qu'elle lui dit, enfin je te l'avais dit, au prochain pas de côté, enfin, ça sera radical. Et maintenant, tu vires de chez moi.
Merci juste d'avoir été avec nous. Une amie dévouée, ça vient de sortir sur Max. Première production française, c'est une grande fierté en tout cas. Merci d'avoir été avec nous et puis on te dit à bientôt pour des aventures cinématographiques.
Peut-être, je sais pas, j'espère. En tout cas, à bientôt et merci pour votre écoute. Merci beaucoup.
On se fait manipuler depuis le début.
J'en peux plus de tes conneries, Bataclan. Je peux pas t'obliger à t'arrêter, mais je peux pas être ta complice.
Ils ont besoin de moi. Ils s'en foutent de la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide. Tu comprends ça? Je suis utile.
Allez, dans un instant, nos coups de cœur télé, Anne Dessy, Moïse Santamaria, Joyce Bibring et Nicolas Brossette, directeur de collection de Demain nous appartient, nous rejoignent. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Un sentiment heureux vous abîme, vous offense. Que reste-t-il pour ceux qui saignent les âmes en peine? Que reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde. Les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Nous, un sourire nous arrange. Quand on ne sent plus le feu, on l'allume et on change. Les pleurs des cœurs de ceux qui s'éteignent dans la reine. Qu'avons-nous fait de mieux que ceux qui s'aiment ensemble s'élèvent? Paraît que c'est contagieux. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde. Balabala. Reste-t-il pour eux et ceux qui rêvent d'une trêve, de lueur et de mieux? Mon regard n'est pas fait pour ce monde, n'est pas fait pour les autres, non, n'est pas fait pour ce monde.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à un si grand soleil et on continue eh bien, à dérouler les personnages de votre série régulièrement, vous le savez, dans notre émission. Et puis un si grand soleil, surtout, change de chaîne, hein, on vous le rappelle. C'est sur France 3 maintenant. Et puis c'est pas Moïse Santamaria qui va nous dire le contraire. Bonjour mon cher Moïse.
Bonjour, ça va? Tout le monde va bien? Bonjour à tous.
Ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va, ça va. Oui, ça passe sur France 3. Hein. Ça passe
sur France 3. C'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Oh bah écoute, moi, c'est une nouvelle. Je n'y suis pour rien.
C'est vrai, donc, c'est pas toi qui étais initiateur de ça, je comprends pas.
Je n'y suis pour rien, donc je peux pas... voilà. Et comme je n'y suis pour rien, je n'ai pas à penser que c'est bien ni mal. Parce que quand quelque chose, on ne peut rien y faire, il faut pas s'impliquer émotionnellement. T'es d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Mais à la fois Manu Léoni, comme ça on va pouvoir le suivre beaucoup plus régulièrement et sans déprogrammation, et ça c'est bien.
Et ça c'est plutôt pas mal.
Exactement.
Il y a deux épisodes qui vont se suivre l'un après l'autre.
Oui, rediffusion de la veille, plus épisode inédit du jour. Voilà, je crois qu'on a donné toutes les infos.
Tu veux que je dise, c'est ma mère qui va être contente.
Exactement, la mienne aussi. Bon, mon cher Moïse, en tout cas, Manu Léoni continue d'enquêter, de nous offrir toujours des partitions plutôt sympathiques, parce que c'est un flic à la fois dur et tendre, comme j'aime le dire des fois, qui a montré tellement de facettes de ce personnage.
Bah, écoute, oui, j'ai envie de te dire, il faut nuancer. Non, il faut nuancer, c'est important. S'il est fort, il faut qu'il soit doux. S'il est doux, il faut qu'il soit fort. S'il gueule des fois, il faut qu'il parle doucement d'autres fois. Si voilà, il est juste en fait, et il est comme nous tous, non? Parce qu'on est tous différents, on n'est pas tous sur une couleur, j'espère.
Non, c'est clair. Puis il nous a montré des facettes aussi d'émotion.
Ouais.
Tu nous as montré des facettes d'émotion de Manu Léoni, hyper fortes durant toutes ces intrigues, ouais, durant 6 ans.
Et j'aimerais en montrer encore d'autres. Donc allons-y encore plus loin. Et oui, c'est un hypersensible, je pense. C'est un écorché. Donc il fait avec ce qu'il a, et ce qu'il a, c'est ses tripes.
T'imaginais il y a 6 ans être là, 1500 épisodes plus tard?
J'imaginais rien. Mais moi, on m'avait dit que ça allait durer
quelques années.
Beaucoup d'années. Je savais, j'avais confiance. Il m'a dit on est sur un paquebot. Thomas Desmatteis m'avait dit on part sur un paquebot, on part en croisière. C'est une longue route, on y va. Donc moi je m'étais dit allez, j'y crois quoi. Je m'étais pas dit ça va foirer. Sinon j'aurais pas pris pas mal d'engagements à ce niveau-là. Moi je suis parti vivre dans le sud. Je me suis rapproché du tournage. Je suis très heureux d'être là-bas. J'ai fait le pari et finalement on est entre gens de confiance. Donc ça se passe plutôt bien moi je trouve.
Au début de la série, ton personnage était celui qui a fait le plus d'épisodes, le plus de présence. Est-ce que ça fait du bien justement d'avoir maintenant plus de recrues dans le commissariat, d'avoir une équipe complète? Ça soulage un peu le personnage quand même, du coup.
Alors,
et puis toi, par la même occasion.
Deux choses. Ça fait du bien de travailler avec d'autres personnes dans le commissariat, que ça s'étoffe, qu'il y ait beaucoup de choses, c'est vrai. Moi, j'aime bien être dans le jus. Ils le savent, moi j'aime bien être dans le jus, mais c'est que surtout, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « On le voit moins Manu, on veut le voir plus, des fois ça nous manque, parce que des fois t'es pas à l'écran pendant un ou deux mois, etc. etc. » Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour être un petit peu tout le temps là. J'aime bien être présent. Et quand il y a des arches importantes, être plus présent. Mais c'est vrai qu'on a on a accueilli beaucoup de personnes, on a accueilli beaucoup de gens, donc il faut que ça tourne en fait. Et il y a des histoires maintenant, il y a 4 arches des fois qui se tournent en même temps, donc il y a 4 équipes, etc. Donc voilà, c'est comme ça, encore une fois c'est comme ça. Maintenant c'est vrai que j'aime bien être dans le jus, moi je suis quelqu'un qui aime bien être dans l'action, j'aime bien vivre des choses émotionnelles, j'aime bien être là quoi, tu vois.
L'équipe du commissariat accueille une nouvelle recrue en plus. Thaïs
qui va rejoindre une équipe du commissariat déjà bien soudée, on va dire, bien avec le trio Manu, Alex, Becker, qui est déjà un truc assez qu'on a créé, qui est vraiment pas mal du tout. Enfin, moi j'aime beaucoup ce trio, ce duo avec Alex aussi, c'est top. Et puis maintenant,
c'est la comédie à l'état pur, ouais, vous deux là. Ouais, c'est vraiment, c'est énorme quand on vous voit.
On s'éclate. Bah en vrai, Benjamin c'est un gros con, faut pas le dire. Mais
ça y est, ça balance.
Ah merde, c'est dit, ça y est. Mais comme je suis un con aussi, on s'entend bien. Voilà. On est deux cons qui s'entendons bien et qui faisons les cons. Mais c'est cool, on accueille une nouvelle recrue en effet, comme Hakim en fait, qui était venu, qui est parti, et ben maintenant on en accueille une nouvelle, et puis ça va, voilà, elle va aussi trouver sa place, elle l'a déjà d'ailleurs. Et
ça complète un peu la féminité du commissariat aussi.
Bah, et c'est bien d'avoir de la présence féminine au commissariat, parce que moi j'ai des potes flics, hein, parce que depuis que je fais des rôles de flics et tout ça, je me suis fait des potes qui sont figurants en général, qui sont ben, police, j'ai des potes policiers à Montpellier, à travers le sport que je pratique, j'ai des flics avec moi qui pratiquent du sport. Et ben il y a beaucoup de femmes dans la police.
Quand on plus va, en plus.
Ouais, quand on va dans un commissariat, il y a beaucoup de femmes. C'est important qu'il y en ait pour que ça représente au mieux la réalité. Voilà.
Alors, il faut dire qu'il y a des enquêtes. En ce moment, on est sur des enquêtes de drogue, hein, en ce moment. Trafic de drogue.
Alors, je ne sais pas. Moi, je peux te parler de quelque chose qui va arriver. Je te l'ai dit un peu hier, on s'est vu. Je t'ai dit un petit peu que, bah, voilà, il y a Elliot qui sort de prison.
Enfin.
enfin, et est-ce qu'il va y retourner? Enfin, il sort de prison et il va devoir reprendre une activité, mais est-ce qu'il va pas tomber dans un trafic? Et peut-être bien qu'il va tomber dans un trafic et Manu va être sur ses côtes, mais Manu, eh bien, il est l'amoureux de Eve, et Eve, c'est son amoureuse, et Eve va vouloir protéger son fils sans le dire à Manu. Donc,
et là, ça va encore créer des complications dans le couple, je le sens.
Ça va être des choses compliquées, et ouais, il va y avoir des complications en effet, mais c'est surtout Manu va devoir... En même temps, ne rien dire à sa hiérarchie, encore une fois, pour protéger des personnes qu'il aime et sauver des personnes qu'il aime.
Il va se mettre en danger lui-même aussi.
Il se met en danger, toujours dans ses histoires, il se met toujours en danger, mais parce que c'est le principe du berger, c'est le principe du berger plutôt, de quelqu'un qui protège, qui met en sécurité les autres, quitte à prendre des risques et quitte à prendre des coups.
Moïse, t'as un personnage qui a été pour moi très compliqué certainement à jouer, mais qui m'a beaucoup marqué, qui a montré aussi une autre facette du comédien que tu es. C'est Je suis né à 17 ans. Ce genre de projet aussi te font peur ou t'excite plutôt, justement, c'est des challenges. Tu jouais le père de Thierry Beccaro, hein, pour être voilà.
Donc c'est un sujet de la maltraitance infantile, hein, et plus que ça, moi je dirais c'est même un autre sujet parce que je l'ai vu sous le prisme de mon personnage. C'est un immigré italien qui a des rêves déçus, qui noie ses frustrations dans l'alcool et qui va ressortir cette frustration à travers une violence verbale sur sa femme et une violence morale, psychologique sur sa femme et une violence physique sur son enfant. C'est un sujet moi qui me touche à titre personnel pour des raisons privées que je connais. Donc il y a eu discussion avant que j'accepte le projet aussi parce que ça me tenait à cœur. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les rôles de composition. J'aime beaucoup aller totalement à l'inverse de là où on peut me voir parce que c'est toujours intéressant de voir des acteurs. En général, les acteurs qui font des choses inverses de là où on peut les voir, on est un peu étonné des fois. Dans le bon sens du terme. Et donc j'étais très heureux de faire ce projet réalisé par Julien Seri. Là dernièrement, pour parler un peu des actualités, j'étais sur le film de Jean-Pierre Améris qui s'appelle Danse ta vie, sur la danse inclusive. Je t'en ai pas parlé hier parce que j'ai parlé du reste, mais qui va sortir dans pas longtemps là, hein. Danse ta vie avec Magali Sabi, réalisé par Jean-Pierre Améris, par Escazal Productions, Sophie Reville. Donc là on est sur un kiné du sport qui est dans un centre de rééducation. Donc encore une fois, j'étais dans un vrai centre de rééducation avec des vrais handicapés. Donc là tu relativises beaucoup de choses, hein. Tu te rends compte qu'on a énormément de chance et qu'on se plaint beaucoup, voilà. Et là il est le kiné de Magali Sabi, qui est une comédienne en chaise roulante et qui est aussi danseuse et qui va jouer un personnage qui est une handicapée qui veut faire de la danse. Et donc il s'occupe de sa rééducation, il s'occupe d'elle depuis l'adolescence, c'est un peu son grand frère, un peu l'ange gardien. Voilà sur cette actualité. Et puis bientôt en octobre, comme je te disais, Seul contre tous, réalisation par Ionut, je vais écorcher son nom donc je le dis pas, mais Ionut c'est un réalisateur roumain, avec Jules Debonat en partenaire, sur l'affaire de la josacine contaminée dans les années 90, tu sais, ce fait divers, je sais pas si tu t'en souviens. Voilà, on va faire ça, on tourne à Liège, en Belgique. Voilà pour les actualités. Et pour revenir sur Je suis né 17 ans, très beau projet, on en veut plus des comme ça, évidemment. J'aimerais me aller vers des choses comme ça et j'aimerais aller vers des choses aussi d'action où je peux mettre en pratique ce dont je suis prêt à faire sans coaching ni rien du tout. Je te raconterai une anecdote par rapport à ça, tu vas voir, je peux pas te la dire en...
Je te verrais bien partager l'affiche avec Philippe Bass, tous les deux, à mon avis ça devrait bastonner grave.
Mais Philippe est un pote, figure-toi qu'on en a parlé avec Philippe et qu'on aimerait faire quelque chose ensemble.
Ça devrait dépoter.
On aimerait faire un truc ensemble assez assez punchy. On en a parlé il y a pas longtemps tous les deux. Et en fait, sur son dernier Sentier des Loups, il était peut-être question que je vienne jouer le méchant face à lui. Mais ça s'est pas fait pour plein de raisons. Mais on aimerait bien que prochainement il y ait un truc comme ça, tu vois. Qu'on ait un face à face punchy comme tu dis, ça peut le faire, ouais, carrément. Et c'est un pote, Philippe, donc je l'embrasse au passage.
Merci beaucoup Moïse d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment dans Un si grand soleil, votre série sur France 3 à 20h20 tous les soirs, épisode 1 rediffusé de la veille et 20h40 épisode inédit à ne pas manquer. Merci à toi.
Merci à toi et merci à vous tous de nous suivre.
À très vite.
À très vite.
Mais je vois ça combien? 35 euros. Mec, c'est un lycée, c'est pas un club de golf.
C'est le boulot.
Hein? Ouais. C'est quand que je vois ton travail?
Bientôt.
Alors je sais que c'est compliqué pour elle, mais pas faire comme s'il n'existait pas, quoi.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Un soupçon, mini-série événement qui sera diffusé donc à partir de mercredi sur France 2 avec les deux premiers épisodes avec au casting Odile Huillemin et justement Joyce Bibring qui est notre invitée. Bonjour Joyce.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de t'avoir, ma chère Joyce, avec ce premier rôle pour toi, franchement, où tu incarnes Mathilde Delbosque qui va mener une enquête qui va lui faire retrousser les manches, hein, je crois, hein, franchement, puisqu'elle va mener une enquête sur Isabelle qui va perdre son mari. Et cette Isabelle va s'avérer beaucoup plus mystérieuse qu'il n'y paraît, en tout cas va donner du fil à retordre, et elle va rencontrer une affaire qui va changer complètement le cours de sa carrière, cette jeune enquêtrice, on va dire.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Bah, il se trouve que c'est un énorme challenge pour ce personnage de Mathilde, qui débarque déjà en tant que capitaine de gendarmerie dans son ancienne ville d'enfance. Et il se trouve déjà qu'elle est face à son premier meurtre en tant que capitaine. Et elle est face à une adversaire qui n'est clairement pas un suspect comme les autres. Donc c'est une enquête qui va non seulement changer le cours de sa carrière, mais qui va aussi changer le cours de sa vie.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce personnage de Mathilde et comment tu la définirais ? Moi je dirais un peu froide au premier abord, justement, mais est-ce que c'est une carapace qu'on va découvrir au fur et à mesure qui va se fissurer ? C'est ça qui est intéressant peut-être.
Bah, je pense que c'est clairement une carapace qu'elle est obligée de prendre déjà de par son métier, quoi. C'est quand même la gendarmerie, hein. Elle dépend de l'armée. Et puis surtout, là, elle se retrouve dans une situation où elle doit vraiment faire ses preuves. Parce qu'elle a été engagée en tant que capitaine quand même par son propre oncle. Donc, elle est vue par ses collègues, déjà par une fille trop jeune, qui a pas du tout les épaules pour le poste, qui est pistonnée, etc. Donc déjà, il y a ça, il y a cette, cette carapace, je pense, où elle est obligée de se donner un peu une contenance, quoi, pour prendre sa place déjà face à ses collègues, et puis ensuite face à cette femme qui est complètement déroutante. On va pas en dire trop, mais voilà, elle est très vite.
Même nous, en tant que spectateurs, on sait plus trop à quoi s'en tenir concernant Isabelle, quand même, hein.
Bah, elle est, on va voir au fil des épisodes que, c'est quelqu'un d'extrêmement déconcertant, parce qu'elle va toujours réussir à retourner la situation face à son adversaire, quoi. En gros, cette série, c'est clairement un face-à-face entre deux femmes. Et Isabelle, je pense, face à cette Mathilde, va s'amuser, en fait, parce qu'elle a enfin trouvé, je pense, pour elle, un adversaire à sa taille, quoi. Et Mathilde, qui, en vrai, pour moi, est au fond quelqu'un de assez sensible et puis qui a ses failles, qui a ses démons. Elle est revenue dans sa ville d'enfance parce qu'elle a des choses personnelles vraiment à régler. Et il se trouve que là, dans le milieu professionnel, elle va se retrouver face à une suspecte, quoi, clairement, qui va réussir à chaque fois à la scanner et à mettre le doigt en plein dans ses failles, qui va la mettre vraiment face à elle-même et face à ses propres démons. Donc elle va être obligée d'apprendre à se protéger et à se blinder.
Alors moi je vais te dire, Joyce, j'ai vu les deux premiers épisodes, j'ai pas voulu voir la fin justement avant de t'avoir. Mais est-ce qu'on va avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose à la fin des quatre épisodes, dont les deux derniers sont diffusés le mercredi 23 octobre?
On va avoir pas mal de réponses. C'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est assez incroyable dans le sens où même dans la vraie vie, il y a des choses qui restent en suspens. Alors
donc
après,
là
voilà,
aussi, c'est logique.
C'est de l'intime conviction, c'est voilà. Tu me diras, c'est le spectateur qui verra. Pour moi, j'ai mes réponses, mais
chaque spectateur se fera peut-être les siennes, du coup.
Voilà, exactement.
Très bien, c'est bien dit. Alors, t'es bien entouré au casting avec Malik Elakeal Emiliani, que vous connaissez certainement pour les fans d'Un si grand soleil, évidemment, qui joue le rôle de Karim, qui t'épaule dans cette enquête. Et il y a Fred Bianconi, Myra Schmidt, qui joue la fille, justement, Dubreuil aussi, qui est géniale. Et puis, bien sûr, Laurent Gamelon et Cyril Lecomte, qui ont une petite partition, dont on ne va pas vous dévoiler, évidemment, tout, bien évidemment. Mais on vous encourage encourage à découvrir Un soupçon. Alors c'est déjà en intégralité sur France.tv depuis mercredi dernier, donc si vous avez envie de binge-watcher en tout cas cette mini-série, ben, c'est le moment, vous pouvez. Et puis pour ceux qui ont envie de cesser le suspense, vous allez pouvoir la découvrir mercredi soir à 21h10 sur France 2 avec les deux premiers épisodes. Joyce, tes projets? Alors on était ensemble sur le tournage, c'est pas un secret, puisqu'on a tourné ensemble une émission au mois d'avril en Guadeloupe sur le tournage de Commandant Saint-Barth, et tu seras donc bientôt à l'affiche de cette réjouissante série qu'on a hâte de découvrir sur TF1.
Exactement, ouais, je me réjouis aussi vraiment de la découvrir, hein, parce que j'ai vu que quelques images pour l'instant, et franchement ça promet, et puis pour moi c'était vraiment un super tournage, parce que ça m'a permis de rentrer dans un autre registre aussi, qui sera solaire et drôle, et puis dans un personnage aussi très très différent de ce dans quoi on voit d'habitude. Et donc pour l'instant je croise les doigts, mais je pense que c'est bien parti pour une deuxième saison 2.
Ouais. Le planning est déjà booké pour de janvier à mars, j'espère.
Moi je pars en Guadeloupe.
Ben oui. On a hâte en tout cas. En attendant, on te découvre dans Un soupçon, ça sera donc mercredi et ça sera à partir de 21h05 sur France 2. Un rendez-vous à ne pas manquer déjà sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup Joyce d'avoir été avec nous.
Merci Alain, avec plaisir.
Et tout de suite la bande annonce, c'est parti.
Je vous conseille vraiment de parler, Isabelle. Libérez votre conscience.
Ma conscience est claire.
Faites-le pour votre fils, alors.
Vous savez pas jusqu'où on peut aller quand on aime quelqu'un comme moi j'aime.
Un soupçon, une série inspirée de faits réels, bientôt sur France 2 et sur les plateformes France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré au téléfilm Le Fantôme des Saintes, qui sera diffusé samedi soir sur France 3. Denis Maréchal à l'honneur et Anne Dessy qui est notre invitée aujourd'hui dans ce binôme pour ce nouveau téléfilm de la collection Meurtra. Bonjour Anne, merci d'être là.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais écoute, tu sais que c'est toujours un plaisir, et puis il est vrai que quand t'as tourné Le Fantôme des Saintes, tu venais juste d'apprendre en plus que Plus belle la vie revenait aussi. Ça a dû être un tournage joyeux dans ta tête, j'imagine, en plus. Du coup, ça a dû apporter une petite touche supplémentaire.
Alors, quand on m'a proposé le rôle, en fait, je savais pas encore que Plus belle pouvait reprendre. Donc, j'étais déjà très contente d'avoir ce tournage, mais surtout à l'autre bout du monde. C'était quand même incroyable de partir un mois en tournage. Et oui, une fois que je suis partie là-bas, effectivement, je savais qu'on allait reprendre du service 6 mois plus tard. C'était une grande chance de partir si loin pour faire ce tournage incroyable.
Alors, Les Saintes, c'est vrai qu'on n'avait pas eu encore justement de téléfilm sur cet endroit-là. C'est absolument magnifique. C'était la première fois que tu y allais, toi, pour le coup ?
Non, j'avais déjà eu la chance de partir en vacances là-bas.
Ouais.
J'étais restée qu'une journée, comme beaucoup de touristes.
Oui, hein, quand on est en Guadeloupe.
De grande terre.
Bien sûr.
Voilà, et j'avais trouvé ça incroyable. Et là, c'était absolument fou de pouvoir y passer autant de temps et de prendre le temps de tourner partout, quoi, dans tous les lieux emblématiques.
Ah, c'est ça qui est assez dingue. On va suivre une enquête, hein, bien sûr, avec toujours sous fond de, on va dire, de mystère, puisque ce Fantôme des Saintes va commencer avec une femme qui va être prise dans les filets de pêche, Caroline, que tu connais bien, évidemment, que ton personnage de Gaël connaît bien. Et on va se retrouver, justement, dans un espèce de méli-mélo hôtelier, un peu en quelque sorte, et une bataille sous fond de légende, comme tous les téléfilms de meurtre A. Et donc, le corps de Caroline étant retrouvé en bas d'une falaise, que lui est-il arrivé? En tout cas, elle se serait jetée du haut d'une falaise, où on l'a poussée ou pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va découvrir. Quand tu as découvert le scénario, qu'est-ce que tu t'es dit?
Déjà, j'ai trouvé ça haletant. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger le passé, l'histoire et les problèmes actuels.
Ben oui.
Et c'est ça qui était intéressant et qui était un peu un défi pour Denis et moi. C'était toujours en quoi cela faisait référence. C'était la légende de Fréminville, l'histoire, ce qui fait partie de la culture, et en même temps les problèmes actuels qui lient chacun des protagonistes, pour comprendre évidemment eh bien qui a fait le coup, car c'est ça qu'il faut découvrir à la fin du film.
Et bien sûr. Alors au début, évidemment, il se passe jamais trop grand chose aux Saintes, hein. On va dire qu'il y a jamais trop de meurtres. Gaëlle, elle se dit je vais mener l'enquête et tout, et elle va être flanquée en fait de Ludovic qui arrive de Guadeloupe pour venir l'aider malgré elle. Et évidemment, ces deux-là, autrement ça serait pas drôle, se connaissent.
Ben oui, ce qui est intéressant, c'est de mettre deux personnes qui ont pas envie d'être ensemble dans un même endroit. et en plus qu'ils doivent travailler main dans la main pour résoudre cette enquête. Et donc c'est ça qui va créer des situations intéressantes à jouer. Et c'est vrai que le personnage que je joue et dirige un peu les forces de l'ordre donc sur cette île, et elle n'a pas du tout envie qu'on lui impose quelqu'un d'autre au niveau hiérarchique pour l'aider à gérer cette enquête. Et évidemment, c'est un peu l'homme du passé pour elle qui ressurgit.
Alors France Dobda qui produit avec son mari, bien sûr, le film fait une petite apparition aussi, un petit rôle, comme souvent, d'ailleurs on l'adore, France, et c'est des producteurs géniaux là-dessus qui savent toujours bien ficeler des belles enquêtes sous les tropiques. Ça, c'est chouette d'être épaulé par des producteurs comme ça aussi.
Ah mais c'est merveilleux, ce sont des producteurs rares dans notre profession qui sont d'une telle bienveillance, d'une générosité rare, et qui ont à cœur à chaque fois que tout le monde se sente bien. C'est vraiment des personnes, vraiment je souhaite à chacun de pouvoir les croiser sur sa route. C'est des gens vraiment rares.
Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de ce tournage? Parce que moi, je t'avoue, en regardant le film, j'ai souffert pour toi, te voir marcher le long de ces eaux cristallines en tenue de gendarme. Je me suis dit, la pauvre, mais elle a dû souffrir.
Ah non, mais attends, tu sais quoi? Alors, on rigole, mais il y a... Bon, franchement, j'aurais tort de me plaindre, mais je t'assure que quand il fait 35 degrés avec un taux d'humidité qui bat les records, et que tu es en chaussettes, baskets, pantalons, chemise, alors que tout le monde est en maillot de bain à côté de toi...
C'est dur.
Il y a quand même... Voilà. Bon, en termes de souffrance, c'est sûr que on peut pas trop se plaindre, mais je t'assure qu'il y a des jours quand il est midi que tu dois courir avec un revolver et en tenue d'apparat, alors que t'as qu'une envie d'être en maillot de bain dans l'eau comme tout le monde. C'est une forme de souffrance toute relative, je te le concède.
Mais non, mais c'est ça a dû faire l'attraction, hein, touristique quand même, ce tournage aussi.
Ah ben oui, il y avait des figurants, parce que forcément on était sur des lieux emblématiques, donc c'était fermé, les accès, certains accès étaient fermés pour pas que tout le monde débarque dans le champ de la caméra. Mais oui, les gens nous regardaient avec curiosité. Et puis bon, un tournage au Sainte, c'est quand même quelque chose qui doit pas arriver régulièrement. Donc on a été un peu la curiosité, oui.
On va écouter un petit extrait, Le Fantôme des Saintes, c'est samedi, bien sûr sur France 3, petit retour à la maison pour toi, Anne en tout cas, ponctuel, ça sera donc samedi soir à 21h10, on va écouter un extrait, on revient juste après avec toi, on va parler un peu de Plus belle la vie évidemment, juste après, à tout de suite.
Lieutenant Boisson, mercredi 18 octobre, 6h07, la victime est une femme de type caucasien, âgée d'une quarantaine d'années, elle porte une longue robe d'époque.
À mon avis, la victime devait être au bal du fort hier soir.
Alors, il y a un hématome sur le biceps droit. Il y a plusieurs traces d'empoignade. La victime s'est débattue apparemment. Elle porte un collier avec un morceau de coquillage. On dirait une conque de lambi.
Tiens, regarde ça.
Plaie frontale d'une ouverture de, je dirais, 5-6 cm. Conséquence due à un choc violent ou une chute fatale. Selon la coagulation, la mort remonte à plusieurs heures. Oh merde. La victime est Caroline Boisseau. C'est une saintoise de Terre de Haut, propriétaire de l'hôtel Tourment d'Amour.
Allez, de retour au Fantôme des Saintes, Anne Dessy est avec nous. On va parler un peu de Plus belle la vie, évidemment, quand même, Anne, avec cette bonne nouvelle depuis le 8 janvier dernier. C'est votre grand retour à tous. Et on peut dire que le destin de Luna ne va pas s'arranger dans les semaines à venir, puisqu'elle va découvrir un nouvel univers, un univers carcéral, évidemment, puisqu'elle a eu le courage, on va dire, de se dénoncer pour ses copines. Et ça a été un sacrifice, on a l'impression quand même, pour le personnage de Luna, mais elle voulait absolument pas que Barbara, Blanche, soit accusée. Elle a tout pris sur elle, quoi, finalement.
Ben voilà, tu as tout dit. C'est exactement ça.
T'as vu,
ça.
Je suis, hein, toujours. Hein.
Ah ben oui, mais c'est une forme de sacrifice. C'est certain, mais c'est à l'image aussi de, disons, la fin de cette première partie, je la trouve cohérente, parce que mon personnage, qui est encore une fois quelqu'un de courageux, de responsable, va au bout de son idée et décide donc de se sacrifier pour épargner ses trois autres comparses. Mais ça reste malgré tout cohérent, car si on y regarde bien, c'est elle hein, qui a été leader, qui a imposé un peu cet enchaînement de situation, le fait de ne pas en parler tout de suite aux policiers. Donc elle prend ses responsabilités. C'est courageux, certes, et c'est une façon, je trouve, tout à fait cohérente de clore ce premier chapitre.
J'ai l'impression, en tout cas, que ton personnage est un des plus chanceux depuis le début de Plus belle la vie, parce que tu as eu des choses à jouer très intenses. Il y a eu, évidemment, toute cette période de Luna en fauteuil roulant qui nous a beaucoup marqué avec la rencontre avec le personnage de Mousse à l'époque, qui nous a amené un lot d'émotions, un lot également de rire, de comédie. Et là, c'est un nouvel univers encore. On lui fait explorer plein de choses, en fait, finalement, à Luna. C'est hyper intéressant à jouer pour une comédienne.
Mais c'est pour ça que tout le monde me dit vous vous lassez pas de jouer ce personnage, mais non, voilà, tu as donné toutes les clés. C'est parce que j'ai un personnage qui est trop sympa à jouer déjà et qui à qui il arrive plein de choses. J'ai la chance que les auteurs me fassent confiance et donc me proposent des choses fortes à jouer. Donc moi je m'éclate à faire ça. C'est super parce que on traverse des grands sentiments, des grandes émotions, on rencontre plein de partenaires et donc c'est super. Après, il est certain que mon personnage n'a pas eu beaucoup de chance. J'ai vécu des choses assez dramatiques, mais j'ai beaucoup de chance en même temps parce que j'arrive toujours à être résiliente et à m'en sortir. Donc voilà.
On a hâte de découvrir Luna dans ses nouvelles aventures, en tout cas parce qu'il y a, voilà, il y a tout un décor exprès maintenant aussi, un nouveau décor qu'on va découvrir. Moi, je me souviens de ce 18 novembre 2022 avec une grande soirée où t'as été présente avec nous par téléphone d'ailleurs qu'on a vécu.
Ouais.
Et, six mois plus tard, cet appel inespéré, tout le monde n'y croyait plus, et cet appel inespéré qui arrive de la prod en disant on repart, on y retourne, et suite à mobilisation des fans n'ont jamais flanchi. Est-ce qu'on pouvait se dire le 18 novembre 2022, ça va durer un certain temps, les fans vont s'essouffler, et puis ben voilà, la page sera tournée, terminée. Mais en fait, est-ce que vous avez été tous surpris de ça, de voir les fans ne jamais lâcher?
Alors, il y a plusieurs réflexions. Tout le monde a eu des réactions diverses. Moi, je ne m'attendais pas à ce que six mois plus tard, on m'appelle, ça c'est certain. En revanche, j'étais persuadée qu'un jour, ça redémarrait autrement. C'est-à-dire que je sentais bien la ferveur. C'est vraiment la ferveur des fans, des téléspectateurs. Et plusieurs mois après, les gens au quotidien continuaient à nous en parler de ce chagrin, de cette déception, de cet arrêt brutal qu'ils ont mal vécu.
Qu'ils partagent avec vous tous finalement aussi.
Mais oui, bien sûr. Après, moi, je m'étais dit, bon, ben voilà, c'est terminé, on passe à autre chose. J'avais fait le deuil assez vite finalement. Je trouvais ça tellement dommage d'avoir arrêté, mais je l'acceptais, je me disais voilà, c'est une étape forte dans ma vie, c'est la fin, on passe à autre chose et c'est très bien. Je restais très positive à ce niveau-là.
Ah non, c'est résiliente que Luna.
Bah, je me disais pas pour tout hein, parce que je suis pas quelqu'un d'aussi courageuse et aventureuse mon personnage, hein, soyons clairs. Hein. Mais en cela, je me disais bon ben voilà, c'est on passe à autre chose mais pour autant au fond de moi, je me disais c'est pas possible qu'on en fasse rien. Un jour ou l'autre, je me disais ça repartira peut-être sur un prime, comme un événement, vous savez, comme Candice Renoir qui s'est arrêté, mais qui continue à exister sur une fiction, sur un unitaire. Voilà, je me disais, un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui va comprendre que tout ce gâchis, ce potentiel, il faut en faire quelque chose. Et donc, moi, j'étais persuadée qu'on serait appelé, enfin, moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, que Plus belle la vie allait renaître de ses cendres d'une certaine manière, des années après ou deux, trois ans après. Je pensais pas que ce serait aussi rapide, effectivement.
Ah oui.
Et que le projet serait de repartir en quotidienne.
Et encore donc, plus belle.
Et encore plus belle, exactement. Donc, quand on m'a appelée, j'étais très étonnée, mais en même temps, pas du tout.
Bon, écoute, en tout cas, c'est une belle aventure. Et puis, on continue à vous suivre, évidemment, sur TF1 du lundi au vendredi à 14h dans vos aventures. Ouais. Et puis, samedi, Le Fantôme des Saintes à ne pas rater, évidemment, sur France 3 à partir de 21h10 pour cet unitaire aux côtés de Denis Maréchal, Elisa Servier. Il y a plein de beau monde autour de toi, évidemment, pour cet unitaire. Merci beaucoup, en tout cas, Anne, d'avoir été avec nous.
Merci Alain. Et merci encore à tous les auditeurs pour leur soutien.
À très vite.
À bientôt, j'espère. Au revoir.
Une petite surprise de la part de Barbara et Jennifer.
Guide de survie de la détenue badass.
Génial.
Mais c'est quoi?
Ah, c'est des recettes de cuisine?
Ah, pas que, hein. Mais tu verras. En tout cas, là, il y en a une vingtaine que tu pourras faire facilement ici.
Oh, j'adore, c'est trop bien. Mmh. Alors, tu sais quoi? Ça va me changer des petits pois bouillis et de la purée de céleri.
Et en parlant d'atelier, il y en a un qui lâche rien, c'est Eric.
Raconte.
Alors, il propose de s'occuper de tes cours de théâtre.
T'es sérieuse?
Ah non, mais j'aurais dû le filmer, c'est un vrai clown. Hein. Et il a une imagination, c'est effrayant.
Bah écoute, c'est super, mais j'espère juste qu'il fera pas fuir mes participantes.
Oh, mais je vais garder un œil sur tout ça, t'inquiète pas.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Yeah, we're back.
Come on, Aline.
Fun Factory. Come on, Aline. Let's go.
For all Johnny Ray. Sun is set upon the radio. Move a million hearts in mono.
Ooh, our mothers cry.
Don't cry, don't cry.
Sing along in Hoobland.
Everybody!
Factory.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Demain nous appartient et on va parler plus particulièrement avec le directeur de collection Nicolas Brossette qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Alain.
Merci, je suis très heureux de te retrouver Nicolas parce qu'en tant que directeur de collection, tu vas déjà pouvoir nous expliquer dans un premier temps quelle est la tâche d'un directeur de collection et en quoi ça consiste, surtout sur une série aussi importante qu'une quotidienne.
Alors, directeur de collection, c'est un peu comme un showrunner, ce qui est le terme américain. C'est que c'est celui qui va donner les grands axes de la saison sur l'ensemble des personnages. Quels sont les grands mouvements des personnages sur une saison. Donc ça, après moi je travaille avec une équipe d'une trentaine d'auteurs, avec une directrice des séquenciers, Sarah Bellassen, avec Cécile Kigel, Nassim Benalal qui travaille aux arches principales, et avec Sven Jacquet qui lui travaille à la direction des dialogues. Et on a d'autres auteurs ensuite dans les ateliers séquenciers et dialogues. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi je donne la grande direction, je tranche, et puis on fait des séminaires d'auteurs, on en discute tous ensemble, je prépare ça en disant voilà, où est-ce qu'il faudrait qu'on aille sur cette saison, quel événement il faudrait qu'on crée, comment on fait en sorte de se renouveler, puisque là on est en train de terminer la saison 8 et on va amorcer la saison 9. Comment on fait au bout de 9 ans avec 260 épisodes par an pour se renouveler, s'amuser et surprendre encore les spectateurs avec de nouveaux rebonds, de nouvelles grandes émotions, puisque notre boulot c'est ça, c'est de partager des émotions.
Alors partager des émotions, on le dit, il y en a beaucoup dans Demain nous appartient, souvent des intrigues qui sont ficelées sur 4 semaines, elles sont construites en nous mettant sur des fausses pistes durant plusieurs épisodes pour arriver un peu justement sur la dernière semaine à nous aiguiller. Mais c'est vrai que c'est très polar par moment, et puis il y a aussi beaucoup d'intrigues de comédie qui viennent ponctuer aussi tout ça. Ça c'est une volonté de mélanger un peu ces genres.
En fait c'est l'ADN de cette série, c'est-à-dire qu'on sait que les spectateurs viennent pour le polar parce que c'est des intrigues fortes, il y a beaucoup de mystères, et puis ils viennent aussi pour ce qu'on appelle le soap, c'est-à-dire les grandes émotions, les histoires d'amour et une part de comédie aussi. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver dans chaque épisode. On parle beaucoup de polar avec des intrigues policières.
Je te dirais, il fait pas bon vivre à 7 des fois. Hein.
Non, il fait pas bon vivre à 7. On se rend compte surtout, je crois, que c'est le mystère qui interpelle les gens. C'est-à-dire, c'est l'envie de revenir, de découvrir ce qui s'est passé, d'être surpris. C'est la base de n'importe quelle histoire. Un enfant, quand on lui raconte une histoire, un conte, la base d'un conte, c'est quelque chose de très intriguant au début et on a envie de savoir comment ça va se terminer à la fin. Et il y a un grand théoricien du cinéma américain, John Truby, qui dit « Il faut toujours donner au spectateur ce qu'il attend, mais jamais de la manière dont il l'attend. » Et c'est notre boulot tous les jours. C'est comment on fait pour ne pas décevoir le spectateur. Donc pour le récompenser de ce qu'il a vu, pour dire « Ah ouais, j'avais vu ça, mais je me suis fait avoir quand même. » Donc on lui donne, mais pas de la manière dont il l'attend.
C'est ça qui est chouette. Et puis il y a plein de nouveaux mystères qui ont été mis en place pour le coup dans cette saison. On a découvert que Bastien était le fils de Mélodie. On a découvert plein de secrets de famille. Il y a eu la grosse intrigue évidemment autour des Ferret, aussi du cousin de Chloé. Et puis là, on arrive sur une intrigue choc avec 3 détenus qui s'évadent de prison. Et alors là, les méchants font leur retour pour notre plus grand plaisir.
C'est la rentrée, il faut taper fort à la rentrée, il faut récompenser nos fidèles spectateurs, ceux qui nous ont suivis pendant l'été malgré une concurrence forte avec les JO. Et c'est aussi une manière de récompenser nos fidèles spectateurs que de faire revenir comme ça de temps en temps des personnages emblématiques de la série, des gens dont ils ont aimé les histoires. Et forcément les grands méchants tels ceux que vous citez là, Benoît Letellier et Sacha Girard, c'est quand même des figures de DNA, et donc pour nous c'était une très très bonne idée de les faire revenir.
Et puis des fois, il faut des chocs, il y a des disparitions, il y a des départs de comédiens. Il faut gérer un peu tout ça dans l'écriture aussi, mine de rien, ou alors aussi les volontés peut-être de certains de prendre de l'arche pendant un certain temps et puis de revenir au fur et à mesure. Il faut le gérer tout ça, justement, et discuter avec eux du coup.
Alors oui, tout à fait. Alors moi, j'ai pour coutume de dire que ce programme, il est plus fort que nous. Je dis nous, c'est-à-dire les gens qui travaillent dessus. Que ce soit les comédiens, que ce soit les auteurs, que ce soit les producteurs. C'est-à-dire que c'est un programme qui a existé avant beaucoup d'entre nous et qui existera après beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que quand on rentre sur ce programme, on ne dit pas « je vais rester toute ma vie sur ce programme ».
On est de passage.
Exactement. Et le sel de tous les grands soaps, et les Américains le font tellement bien, c'est que de temps à autre, il y a un personnage emblématique et fort qui disparaît de la série pour X ou Y raison. Et c'est aussi ce qui permet aux spectateurs de se dire « ah, donc tout est possible dans cette série-là ». C'est des éléments narratifs qui sont quand même très structurant pour une série comme la nôtre.
Alors c'est vrai que là c'est Lisa qui va en faire un peu les frais, hein. C'est pas un secret, c'est passé un peu sur les réseaux. Et à la fois on va retrouver Naïma Rodrigue dans d'autres aventures et dans plein d'autres projets. On l'embrasse très fort d'ailleurs, Naïma. Il y a des grandes lignes qui se décident un peu sur cette saison à venir. Est-ce qu'il y a un fil rouge particulier? Et notamment un qu'on espère tous, que les fans en tout cas, moi c'est ce que je vois revenir le plus souvent sur les réseaux, c'est le retour des Lazari. On dit souvent que justement les Lazari... les filles qui sont en Guadeloupe manquent un peu justement à la série.
Alors, évidemment, je ne vais pas spoiler ce qui va se passer sur la saison.
Bah non.
Je ne pourrais pas le faire.
On lance juste des appels au nom des fans.
Je vois bien. Les Lazari sont revenus déjà dans DNA. Elles sont
oui, l'été dernier.
Elles sont revenues l'été dernier. D'ailleurs, c'était une arche plutôt sympa. Est-ce qu'elles reviendront? Je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Je dirais juste qu'il faut savoir une chose. C'est que sur Demain nous appartient, tout est toujours possible.
Même faire revenir les morts des fois.
C'est plus compliqué. C'est arrivé une fois de manière très exceptionnelle sur le personnage de Martin. C'est plus compliqué parce qu'il faut quand même qu'on reste plausible. C'est-à-dire que le fantastique n'est pas quelque chose qui fonctionne sur Demain nous appartient. On y a eu des tentatives sur les 8 ans d'arches un peu plus fantastiques que d'autres. En général, ne marche pas. Les spectateurs ne...
On abusait toujours.
Non, nos personnages ont besoin d'être le plus proche possible de notre public parce qu'on doit s'identifier à eux, à ce qu'ils vivent. Et le fantastique n'est pas la tonalité de notre série.
Deux personnages emblématiques aussi qui ont disparu de la série, mais qui ont fait leur retour derrière les caméras. Ça aussi c'est des beaux cadeaux quand justement ces comédiennes, je pense à Alexandra Naoum et à Laurie Pester évidemment, de passer derrière la caméra et d'aller diriger les copains. C'est génial ça.
Ah bah ça c'est super, c'est une très très bonne idée. On travaille, on fait 260 épisodes par an, donc on est quand même des équipes qui travaillent tous les jours dans un rythme qui est très soutenu. Et in fine, ça crée quand même des liens qui sont proches. C'est une deuxième famille, en fait. Hein. Quand on passe autant de temps au travail, ça devient une deuxième famille. Donc, il arrive en effet que, le cas d'Alexandra ou de Laurie, quand elles partent de la série et qu'elles ont ce désir-là de réaliser, eh ben, on les réintègre à nos équipes et on leur permet de réaliser des sessions chez nous.
C'est génial de leur donner cette chance-là. En tout cas, des réalisatrices de talent, je crois, qu'elles ont pu nous démontrer. Ça, c'est sûr. Nicolas, les grandes lignes, donc, du coup, de cette saison.
Alors, les grandes lignes de cette saison.
Sans trop en dire, évidemment, pour nous laisser la surprise.
Alors, je vais être très générique. Je vais vous dire que on va rebondir sur les histoires que vous avez vécues dans la saison précédente. On va toujours et encore voir les personnages qu'on aime dans des intrigues parfois folles, dans des histoires d'amour passionnantes.
Des nouveaux personnages ?
Oui, il y aura des nouveaux personnages. Oui, il y a des choses qui vont arriver, il y a des personnages qui vont arriver. Et puis, on essaie de travailler à l'écriture aussi, le plus en amont possible, c'est-à-dire de construire des histoires, de structurer des histoires, de préparer des histoires, de préparer des choses, de pas être trop d'une semaine sur l'autre, ah il se passe un truc qu'on n'a pas vu arriver. Donc on essaie de construire des choses, encore une fois pour récompenser nos fidèles spectateurs, c'est-à-dire ceux qui regardent la série régulièrement vont voir entrer un personnage, vont s'attacher à ce personnage et d'un seul coup avoir une surprise énorme sur ce personnage. Donc ça c'est le sel de notre travail tous les jours. Les grandes lignes, je pourrais pas vous les donner sans spoiler, donc ça va être un peu compliqué.
Tu nous laisses les surprises.
Voilà, je pense que le mieux c'est de regarder.
La chose que je peux te demander par contre, c'est est-ce que la famille Ferré, est-ce que en tout cas le personnage de Malik Zidi, Louis Durand, tout ça, est-ce qu'ils sont amenés à rester pour l'instant ou ils étaient là vraiment pour une intrigue passagère?
Pour l'instant, ils sont amenés à rester. Ouais.
Voilà. Et ben ça déjà c'est déjà très très bien, une bonne nouvelle puisqu'on va découvrir de nouveaux personnages et je suis sûr qu'ils n'ont pas fini de livrer leurs secrets après la mort d'Alban.
Écoute, je crois que c'est toi qui as le mot de la fin. Tu as tout dit.
T'as vu ça? Et je suis, hein.
Mais je vois ça, j'apprécie, c'est super, bravo.
Bon, Nicolas, en tout cas, merci, c'était très appréciable de te retrouver, en tout cas, et puis nous expliquer aussi le boulot de directeur collection, parce que souvent, voilà, on entend ce terme, et c'est bien d'expliquer aussi, voilà, ton travail, et de pouvoir justement expliquer aussi que bah, c'est toi un peu qui est un peu au-dessus de tous les auteurs pour leur permettre aussi d'être cohérent. Et moi, je trouve que Demain nous appartient s'ancre de plus en plus aussi dans l'actualité et dans les jours aussi, en fait, Noël. En fait, le nouvel an, il y a vraiment des événements majeurs de la vie quotidienne qui sont insérés maintenant à la série, et ça, c'était vachement chouette.
On l'a toujours fait, et c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année, on le fait moins que Plus belle la vie, par exemple, qui est vraiment très collé à l'actualité. Nous, on n'a pas de vocation, on n'a pas cette vocation première, mais on se colle à des périodes. Et pourquoi Noël, tu citais Noël, parce que c'est quand même des périodes où la famille se retrouve, et que notre série est une série avant tout familiale. Donc c'est aussi ça qu'on vient souligner au quotidien.
Merci Nicolas, à bientôt.
Merci Alain, à bientôt.
Maman ?
Oui, oh, tu m'avais manqué mon fils.
C'est ton anniversaire, j'avais pas raté ça quand même. 18 ans.
18 ans.
Ça lui tenait à cœur de récupérer la lettre de son père. Hein. Il a dû être déçu.
Écoute, je t'ai pas tout dit par rapport à ça.
Yannick lui a bien laissé une lettre et j'ai reconnu c'était son écriture.
Ryan, je sais que j'ai pas toujours été un père exemplaire, mais j'ai toujours été un homme de parole qui a des valeurs.
Ça va, c'est juste un rendez-vous chez le notaire.
Imposé par Malik.
Le gars a suivi Romy et Ryan depuis l'office notarial, d'accord ? On le voit sur toutes les caméras de surveillance de leur trajet.
Il les attendait là-bas ?
Ouais, il les a suivis jusqu'au Little Spoon.
C'est l'écriture de mon père. Ta mère n'est pas celle que tu crois, elle t'a menti toute ta vie.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On accueillera le directeur de la fiction d'M6, Quentin de Revel, qui sera notre invité. Nous parlera de tous les projets fiction de la chaîne qui arrivent, plus plein d'autres surprises, évidemment.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.